Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ni éthique ni responsable, le podcast qui s'intéresse aux expériences scientifiques et sociales, soit cocasses, soit dégueulasses, et parfois les deux. Aujourd'hui, on se plonge dans une histoire fascinante et un peu macabre, celle de la guillotine. Attachez vos têtes car nous nous apprêtons à dérouler le tapis rouge sanglant de cette machine décapitante qui a fait vibrer la Révolution française avec son éclat sinistre et son humour particulier. Remontons le temps au 24 août 1780 où Louis XVI, cherchant à pimenter les choses dans le monde de la justice, fait disparaître la « question préparatoire ». Oui, ce n'est pas un apéritif mais plutôt une méthode qui visait à obtenir des aveux par la torture. Louis XVI se dit « Pourquoi ne pas simplifier les choses et rendre la décapitation la star incontestée des exécutions ?» C'est à ce moment-là que notre homme, Pierre Lenoir, lieutenant général de police, entre en scène. Le roi s'inspire d'une réforme toscane et plonge la France dans un monde où la vengeance publique et la terreur règnent en maître. On parle même d'une échelle de torture savamment graduée. Oui, mes amis, la France était alors en mode saut, bien avant que cela ne devienne une franchise cinématographique. Mais attendez, la pièce maîtresse de notre saga décapitante entre en scène. Joseph Ignace Guillotin, député et franc-maçon. Ce gars-là, avec l'appui de Mirabeau, se lève un jour et se dit « Les gars, on peut faire mieux que ça !» Il présente son projet de réforme en décembre 1789 avec la proposition audacieuse que, je cite, « la décapitation fut le seul supplice adopté ». Oh Guillotin, tu sais comment mettre l'ambiance dans une assemblée ! Il veut une machine, une vraie. Une machine qui rendra l'exécution égale et humaine, comme si c'était le dernier épisode de La France a un incroyable talent. Il déclare avec un enthousiasme macabre « Avec ma machine, je vous fais sauter la tête en un clin d'œil et vous ne souffrez point !» Un vrai showman, ce Guillotin. Maintenant, parlons de nom. Au début, on l'appelle Louison, Louisette ou même Mirabelle. Mais non, ce n'est pas assez accrocheur. Le nom Guillotine surgit grâce au journal royaliste Les Actes des Apôtres. On peut imaginer les gros titres. « La Guillotine, la nouvelle star des décapitations !» Et voilà, les termes guillotinés deviennent des incontournables du vocabulaire macabre. Maintenant passons à la motion du 1er décembre 1789. Guillotin propose des idées égalitaires et humanitaires qui sont défendues avec zèle. Mais par manque de temps, seul le premier article est adopté provisoirement. On dirait que même la Révolution avait des deadlines à respecter. Les délibérations se poursuivent, les articles sont acceptés, et le 25 septembre 1791, les législateurs votent la peine de mort par décapitation. Oui, c'est officiel, la guillotine est là pour rester. Et devinez qui était le premier à tester cette nouvelle machine à couper ? Nicolas-Jacques Pelletier, le criminel de droit commun qui a eu l'honneur d'être le premier à monter sur Mademoiselle en place de grève. La foule était tellement excitée qu'ils ont à peine eu le temps de sortir leur smartphone pour filmer le tout. Mais ce n'est pas fini, les amis. La guillotine devient permanente le 21 août 1792, déclarée ainsi par Pierre-Louis Manuel, procureur de la Commune de Paris. La guillotine permanente, comme si c'était une attraction de parc d'attractions qui ne ferme jamais. Le second tribunal révolutionnaire fait son entrée en scène en mars 1793 avec des pouvoirs exorbitants. Louis Guyot des Molans est le premier à goûter à la nouvelle guillotine. On peut imaginer les discussions dans les coulisses. C'est la saison 2 et nous devons rendre cela encore plus intense! Les exécutions se multiplient et la guillotine devient le symbole de la violence révolutionnaire. Barrère déclare même « Cet instrument fait tout, c'est lui qui gouverne ». C'est comme si la guillotine était devenue la présidente non élue de la République des Têtes Perdues. En avril 1871, la guillotine sera brûlée par les communards au nom de l'abolition de la peine de mort. Bon, je ne suis pas là pour refaire l'histoire de France, mais bien pour parler d'expériences scientifiques. Et la guillotine a amené son lot de questions de la part des scientifiques. Du genre, combien de temps une tête décapitée reste-t-elle vivante? Peut-on réanimer une tête décapitée? Et si je créais un cerbère dans la vraie vie? Bref, aujourd'hui je vous propose un petit tour d'horizon de scientifiques qui se sont coupés les cheveux en quatre.
One man crazy, three
César Julien Jean Le Gallois, le virtuose de la médecine qui a jonglé avec des poudres explosives et des étudiants révolutionnaires. Né à Chéruex en 1774, ce breton intrépide a fait ses premières études médicales à Caen, où, entre deux dissections, il a peut-être rêvé de baguette magique médicale. Là-bas, le Gallois a décidé de pimenter un peu sa vie en prenant les armes en 1793, mais pas pour combattre la grippe. Non. Il a rejoint les fédéralistes, montrant que parfois, un médecin peut être plus révolutionnaire qu'un groupe de rock punk. Malheureusement, la vague révolutionnaire l'a obligé à se cacher, un peu comme un médecin ninja. Il a alors décidé de se fondre dans la foule des étudiants en médecine à Paris. Mais comme dans toute bonne histoire, il y a toujours un traître parmi les camarades. Et le Gallois a été dénoncé par l'un d'entre eux. Rien de tel qu'une trahison pour ajouter du piquant à une biographie. Pourtant, notre héros ne s'est pas laissé décourager. Dénoncé ou non, il a décidé de se présenter au jury d'examen pour l'administration des poudres et salpêtres. Parce que pourquoi pas ? Le Gallois a réussi ses épreuves avec brio, prouvant que sa plume était aussi acérée que ses scalpels. Lorsque l'école de santé a vu le jour, le Gallois a réussi à y être envoyé comme élève. Un élève qui a dû jongler entre la dissection et la fabrication de poudre. Imaginez-vous, un jour vous disséquez un cadavre et le lendemain vous supervisez la fabrication de poudre à canon. La vie quotidienne d'un médecin polyvalent du 19e siècle, quoi. Le Gallois a obtenu son diplôme de docteur en 1801 et s'est installé à Paris. En 1813, il a été nommé médecin de Bicêtre, un poste qui a probablement nécessité plus que des consultations standards.
Oui, monsieur, nous traitons tout, des maux de tête aux épidémies, en passant par les détonations accidentelles de poudre.
Quant à ses œuvres, le Gallois ne s'est pas contenté de disséquer des cadavres. Il a également disséqué des idées, publiant des expériences sur le principe de vie et même mené des recherches sur la contagion de la fièvre jaune. Mais l'histoire médicale de la famille Le Gallois ne s'arrête pas là. Son fils, Eugène, est entré dans la danse médicale avec une vie tout aussi palpitante. Interne des hôpitaux, docteur en 1828, il a même étudié le choléra en Pologne. Parce que si vous étudiez une épidémie, autant aller là où elle est la plus active, n'est-ce pas ? En fin de compte, la famille Le Gallois a légué au monde médical un héritage riche en aventures, en poudres explosives, en dissections et bien sûr en contributions savantes. Parce que après tout, c'est ainsi que l'on fait carrière dans la médecine au 19e siècle. Et c'est aussi en étudiant des têtes coupées. Et oui, le début des années 1800, dans la France post-révolutionnaire, une époque où la décapitation était presque devenue un passe-temps national. Les Français étaient tellement obsédés par le fait de trancher des têtes qu'ils ne pouvaient s'empêcher de remarquer les expressions faciales des têtes fraîchement séparées. Mais pas notre cher Jean César Le Gallois. Non, il n'était pas vraiment fan du spectacle Tête qui roule n'amasse pas mousse. Il préférait plutôt les troncs décapités. Le Gallois, connaisseur en vivisection, parce que qui ne voudrait pas mettre cela sur son profil LinkedIn, n'était pas dérangé par quelques têtes qui roulaient. Il préférait contempler avec attention les troncs décapités gisant de l'autre côté de la guillotine. Vous savez, un mardi après-midi typique dans la France du 19e siècle. Parlons maintenant du choix de carrière de Le Gallois, vivisecteur professionnel. Oui, c'est vrai, il découpait, tranchait et expérimentait sur des animaux vivants juste pour comprendre le siège de la vie du corps. Parce que rien ne crie recherche scientifique comme décapiter des lapins avec une mini guillotine et chronométrer le temps qu'il faut pour que leur tronc rende l'âme. Allez. Qui a besoin de Netflix quand Le Gallois réalise des dissections de lapins comme le spectacle le plus en vogue en ville ? Mais le Gallois ne se contentait pas de la vivisection ordinaire. Oh non, il allait au-delà du pathologique pour modifier les limites de la vie et de la mort. Parce que soyons honnêtes, qui ne veut pas redéfinir la vie et la mort pendant ses heures de loisir ? Après que les corps d'animaux aient arrêté leur danse involontaire, le Gallois n'était pas prêt à ranger ses instruments. Non, pour lui, ils étaient simplement, je cite, « en grande partie morts ». Dans le monde tordu de Le Gallois, la résurrection et non la guérison était son principal objectif. C'est ça, les gens. Il visait à ramener les morts, ou presque morts, à la vie. Oubliez le massage cardiaque, Le Gallois était tout pour l'inflation artificielle des poumons et les greffes d'organes. Poussez-vous, Frankenstein, il y a un nouveau savant fou en ville et il est français! Certes, ces expériences peuvent vous donner des frissons, mais elles ont contribué à façonner la physiologie moderne. Le Gallois ne jouait pas les savants fous pour le plaisir, il était en quête de redéfinir les limites de la vie. Pour lui, la mort n'était qu'une escale entre une vie et une autre. Vous savez, comme une escale à l'aéroport, mais avec plus de parties de lapins désincarnés. Alors, la prochaine fois que vous penserez que votre travail est étrange, souvenez-vous de Le Gallois, l'homme qui a transformé la vivisection en une forme d'art macabre et qui nous a fait remettre en question l'essence même de la vie et de la mort. À toi, Le Gallois, le créateur original d'animaux zombies. Bon, Le Gallois, c'était pas le seul énergumène dans le genre. Charles-Édouard Brown Séquard, le globe-trotteur de la médecine du 19e siècle, était une créature hybride issue de la diversité géographique et parentale. Né à l'île Maurice, ce joyeux mélange de paternité américaine, côté Brown, et de maternité française, côté Séquard, a donné naissance à un individu qui a jonglé avec les identités nationales comme un acrobate avec des quilles. Élevé dans la belle francophonie de l'île, Brown Séquard a développé un amour pour la culture française, bien que son père ait mystérieusement décidé de faire naufrage avant même de pouvoir échanger quelques mots avec son rejeton. Étant sujet de l'Empire britannique, notre homme a jonglé entre l'anglais et le français, parlant la langue de Shakespeare avec un accent tellement fort qu'il aurait pu rivaliser avec une baguette sur une scène de comédie. Malgré ses périples dans des contrées lointaines comme Paris, Londres, Dublin et les États-Unis, où il a décroché plus de postes que la moyenne de changement de costume d'un acteur de théâtre, Brown Séquard a finalement décidé que la France était sa patrie adoptive. Cela s'est fait après avoir obtenu sa naturalisation française et la reconnaissance officielle du nom Brown Séquard, une fusion de l'identité paternelle et maternelle. Les études de médecine de Brown Séquard à Paris l'ont catapulté dans le monde médical, mais ses voyages incessants ressemblaient plus à un road trip médical qu'à une carrière stable. Il a pratiqué à l'île Maurice, en Amérique du Nord, à Paris, à Londres, à New York. Nommé une ville, il y a probablement posé son stéthoscope. Son CV médical est aussi varié que sa nationalité, allant de la pratique à l'hôpital national pour les paralysés et les épileptiques à un poste de professeur à Harvard. Là où la plupart des médecins se contentaient d'explorer les voies traditionnelles de la médecine, Brown Séquard était un explorateur intrépide du corps humain. Il a joué avec la moelle épinière comme un chef joue avec les épices, donnant naissance au fameux syndrome qui porte désormais son nom. Qui aurait pensé qu'une hémisection de la moelle épinière pourrait être aussi à la mode ? Mais attendez, ça devient encore plus intéressant. Brown Séquard n'était pas simplement un médecin, il était un artiste de l'expérimentation. Greffer la queue d'un chat sur la crête d'un coq ? Check. Ajouter une deuxième tête à des chiens ? Évidemment. Et que dire de son appétit pour la résurrection, essayant de redonner vie à des têtes coupées avec du sang ? C'est comme si Frankenstein avait décidé de prendre des conseils auprès d'un médecin farfelu du 19e siècle. Pourtant, au-delà de ses exploits médicaux bizarres, Brown Séquard a laissé une marque durable sur la science en questionnant la signification même de la vie et de la mort. Son expérience controversée avec l'injection d'extraits de testicules de chiens et de cochons d'Inde pour rajeunir son propre corps a peut-être été raillée sous le nom d'élixir de Brown Séquard. Mais il a ouvert la voie à des débats sur l'hérédité et la longévité. Bien sûr, certains ont appelé ça un placebo, mais qui aurait cru qu'un testicule pouvait avoir un tel impact, même si ce n'était que dans l'esprit. Ainsi, Charles-Édouard Brown Séquard, le médecin globe-trotteur, a navigué à travers la médecine du 19e siècle avec un mélange d'audace, de curiosité et de franc-parler. Un homme dont la vie a été plus étrange que la fiction et qui a démontré que parfois, pour repousser les limites de la science, il faut être prêt à faire quelques expériences inhabituelles, même si cela implique des têtes coupées et des testicules de cochon d'Inde. Revenons sur cela d'ailleurs. Après avoir jonglé avec des guillotines pour des lapins et des cochons d'Inde, voilà qu'il se plonge dans l'étude du rigor mortis. Parce que, soyons honnêtes, quoi de plus excitant que des cadavres raides comme des piquets ? Bon, plein de choses, je sais. Au début, il expérimente avec des cochons d'Inde et des lapins. On ne sait pas vraiment pourquoi il a choisi ces charmantes créatures, peut-être parce qu'il trouvait leurs petits yeux curieux ou leurs oreilles remuantes particulièrement inspirantes. En tout cas, il se met à prendre des notes sur le moment précis où ces pauvres animaux se transforment en statues de cire après la grande réunion avec la faucheuse. À l'époque, personne ne se doutait que ce phénomène était simplement un cas de transformation du glucose en acide lactique dans les muscles. Une révélation qui, soyons honnêtes, a dû laisser tout le monde médusé et probablement un peu embarrassé de ne pas l'avoir découvert plus tôt. Merci Frédéric Gowland Hopkins pour avoir éclairé la lanterne de la science en 1906. Cependant, Brown Séquard n'était pas du genre à se laisser abattre par une petite chose comme la compréhension scientifique. Non, il a décidé de faire preuve d'un peu de panache en montrant que le rigor mortis pouvait être inversé. Comment, demandez-vous ? Eh bien, il a suffi de perfuser du sang défibriné et oxygéné dans la circulation sanguine. Puis, pour pimenter un peu la situation, Brown Séquard a décidé de jouer avec une tête de chien décapité. Voilà, parce que rien ne crie expérience scientifique de haut niveau comme une tête de chien qui fait des clins d'œil et des grimaces. Il a perfusé cette charmante tête canine à travers les artères vertébrales et carotides. Et là, magie ! Des mouvements musculaires, des clignements d'yeux et une série d'expressions faciales. On peut imaginer Brown Séquard debout là, entouré de ces échantillons biologiques étranges, un sourire satisfait sur le visage, se demandant probablement ce que penseraient les gens dans le futur de ces exploits médicaux fous. Eh bien Chuck, nous te le disons maintenant, chapeau bas pour ta créativité débordante et tes expérimentations qui ont rendu la science aussi divertissante qu'un spectacle de cirque. Bon, continuons notre galerie de gens qui ont une attirance à la guillotine trop exacerbée pour que ce soit sain. Jean-Baptiste Vincent Laborde, le maestro de la physiologie démonstrative, est entré dans le monde avec une blouse à la place d'un lange, prêt à démontrer que la vie n'est rien de plus qu'une série d'expériences délicieusement curieuses. Après avoir jonglé avec des scalpels à l'externat des hôpitaux de Paris, où il a appris à faire des coupes plus fines que du jambon serrano, il est devenu interne en 1858, prouvant ainsi que même dans le monde médical, il faut d'abord être stagiaire avant de sauver des vies. Docteur en médecine en 1864, il a été nommé chef du laboratoire de physiologie à la faculté en 1875, un poste créé spécialement pour lui après que deux concours d'agrégation aient obstinément refusé de reconnaître son génie. Il était probablement trop occupé à jouer avec des éprouvettes et des électrodes pour remplir correctement les formulaires. Laborde a apporté une bouffée d'air frais à l'enseignement de la physiologie, en lui donnant une dimension démonstrative. Il a transformé la faculté en un véritable spectacle vivant où les étudiants pouvaient non seulement apprendre sur le cœur, la respiration et les réflexes, mais aussi découvrir comment impressionner lors de soirées mondaines avec des faits physiologiques étonnants. Ces expériences ont touché tous les domaines, de la physiologie pure à la pathologie expérimentale, en passant par la physiologie thérapeutique et toxicologique. Cœur, respiration, localisation cérébrale, réflexes, température, il a couvert tout cela comme s'il jonglait avec des sujets médicaux aussi facilement que d'autres jonglent avec des balles. Mais attendez, c'est pas tout ! Laborde était également un ami de Gambetta, à qui il a dédié une biographie psychologique. Eh oui, c'est ça l'amitié, une analyse psychologique. Et comme si ses journées n'étaient pas assez remplies, il a également enquêté sur la toxicité des essences utilisées pour préparer certaines liqueurs dans le cadre de la lutte anti-alcoolique. Membre de l'Académie de médecine, président de la Société d'autopsie mutuelle, oui ça existe, vice-président de la Société de biologie et rédacteur en chef du journal La Tribune Médicale, Laborde était la rockstar de la médecine au 19e siècle. À sa mort, il a été inhumé au cimetière du Père-Lachaise, où son esprit continue probablement de jongler avec des idées médicales farfelues, laissant derrière lui un héritage aussi énigmatique que la raison pour laquelle on ne l'a pas canonisé en tant que saint patron des expériences médicales loufoques. Le docteur Jean-Baptiste Vincent Laborde était membre émérite de la Société d'autopsie mutuelle. Il a décidé de s'amuser avec des têtes coupées en 1884. Pourquoi pas ? Il a d'abord essayé son tour de magie avec la tête d'un assassin nommé Campi. Laborde a probablement pensé que c'était une idée géniale de reconnecter l'artère carotide de Campi à celle d'un chien encore vivant. Et devinez quoi ? Le sang a commencé à circuler comme dans une ronde infernale. Selon les notes de Laborde, les muscles faciaux de Campy se sont contractés, comme s'il était toujours en vie. Pendant ce temps, la mâchoire s'est refermée violemment, probablement pour exprimer son désaccord sur toute l'expérience. Mais attendez, il y a plus. Laborde a décidé de ne pas s'arrêter là. Il a répété son numéro avec la tête d'un autre meurtrier nommé Gagné. Cette fois, il n'a pas attendu une éternité pour obtenir la tête après l'exécution. Non, seulement 7 minutes. Parce que quand on joue avec des têtes coupées, la patience est une vertu surévaluée. Alors, qu'a fait Laborde cette fois-ci ? Eh bien, il a fait preuve d'une créativité démente en connectant l'artère carotide de Gagné à celle d'un chien toujours en vie. Comme par magie, ou par démence, le sang a recommencé à couler. Les muscles faciaux de Gagné se sont contractés, la mâchoire s'est encore refermée. Pourtant, aucune trace de conscience n'est apparue. Probablement parce que Gagné avait mieux à faire de son temps que de participer à des expériences post-mortem bizarres. Bon, et puis c'est quoi cette espèce de confrérie secrète des médecins timbrés ? En 1876, les membres de la Société d'autopsie mutuelle, dirigée par des anthropologistes parisiens, ont fait un serment solennel de se donner mutuellement leur cerveau après leur mort. Une sorte de club macabre où les cerveaux étaient les cartes de membres. Inspiré par les découvertes de Paul Broca sur le lien entre une zone cérébrale spécifique et l'aphasie, ces joyeux lurons espéraient que disséquer les cerveaux de l'élite cultivée contribuerait à comprendre la relation entre la taille et la forme du cerveau, l'intelligence et le caractère. Ils ont décidé de dédaigner les concepts traditionnels d'immortalité de l'âme, insinuant que le cadavre n'avait de valeur que pour la science. Un acte scientifique, mais avec des airs religieux, comme une œuvre opératique intitulée « La sécularisation et ses mécontents ». Vous vous doutez donc qu'à sa mort, Laborde a donc été disséqué, du moins son cerveau, par ses pairs. On sait donc que celui-ci pesait 1234 grammes, ce qui est plus léger que la moyenne. Comme quoi, c'est pas la taille qui compte. Laborde avait un ami, Paul Loy, le gars qui a décidé que la meilleure façon de comprendre le cerveau, c'était de décapiter des chiens. Parce que vraiment, qui a besoin d'un IRM quand on peut utiliser une guillotine ? Alors, imaginez-vous, Loy, ce génie incompris de la physiologie, débarque à la Sorbonne avec ses idées plutôt radicales.
Oh, vous voulez comprendre le cerveau ? Bien sûr, utilisons une guillotine.
Il se met donc à décapiter allègrement des centaines de chiens, probablement avec un enthousiasme digne d'un boucher pendant les soldes. Il enregistre méticuleusement chaque petit mouvement que font ces pauvres animaux sans tête. La science dans toute sa splendeur, n'est-ce pas ? Son mentor, Paul Berthe, avait des vues impérialistes que Loy admirait. Peut-être que Loy pensait qu'en décapitant des chiens, il contribuerait d'une manière ou d'une autre à l'expansion impériale.
« Regardez ces chiens perdre la tête, tout comme nos colonies perdent leur autonomie !»
Ouais, je sais pas. Et puis, bien sûr, Loy a voyagé avec son pote Laborde pour assister à des exécutions. Rien de tel qu'un petit road trip pour voir des têtes rouler, n'est-ce pas ? Les deux potes ont dû bien s'amuser à échanger des idées morbides en chemin.
« Hé, Paul, tu penses qu'on pourrait aussi décapiter des lapins pour étendre notre champ d'études ? Ha 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 ! »
Oh là là. Cela dit, on ne sait presque rien de la vie personnelle de Loy. Peut-être qu'il avait un penchant secret pour les tours de magie avec des lapins, qui sait ? Ou peut-être qu'il aimait cuisiner des plats délicats à base de cervelle animale, façon chef étoilé de la physiologie, j'en sais rien. En fin de compte, Loy est décédé peu de temps après avoir terminé sa thèse en 1886. Peut-être que décapiter des chiens et assister à des exécutions n'était pas la recette parfaite pour une longue vie. La vie du pionnier de la guillotine scientifique s'est éteinte, mais son héritage, lui, perdure. On se demande si, quelque part, il y a un club secret d'amateurs de décapitation qui rend hommage à Loy en organisant des soirées à thème avec guillotine et cocktails cérébraux. Ça aurait du chien, hein. On va finir sur le plus connu de tous. Il fait la régalade de toutes les vidéos putaclic de YouTube à base de « 10 scientifiques complètement fous, le cinquième va vous étonner !» Non, c'est pas de l'allemand dont je vais vous parler, c'est l'autre, le soviétique. Sergei Sergeyevich Brukhonenko, le magicien soviétique du bistouri et du laboratoire, est né le 30 avril 1890, à une époque où les autoiectors et les expériences audacieuses sur les chiens étaient à la mode, ou du moins à la mode selon Sergueï. Après avoir survécu à une éducation secondaire à Saratov, il a rejoint la faculté de médecine de l'université d'État de Moscou. Puis, la guerre est arrivée comme une invitation à une fête dont il n'avait pas vraiment envie. En 1914, Sergueï a été appelé pour servir pendant la Première Guerre mondiale. Imaginez-vous le jeune Brukhonenko, en blouse blanche, déambulant dans les tranchées avec son stéthoscope, tentant de diagnostiquer les blessures de guerre tout en évitant les éclats d'obus. Il est revenu en 1917, probablement avec des histoires de premiers soins héroïques et un amour renouvelé pour les laboratoires stériles. Entre 1919 et 1926, il a été professeur adjoint au département de pathologie clinique et de thérapie à Moscou, développant ses compétences en médecine tout en rêvant de machines futuristes. C'est à cette époque qu'a germé l'idée de l'autoiecteur, un instrument qui allait propulser Brukhonenko sous les feux de la rampe médicale. Puis vient 1939, l'année où notre cher Sergueï se lance dans des expériences sur des chiens. Il a créé l'autoiecteur, un appareil qui fait passer les chiens de la vie à la mort et vice-versa. Du moins, c'est ce qu'il a prétendu. Ses exploits ont été immortalisés dans le film « Expérience pour la résurrection des organismes » dirigé par David Yashin. Les chiens ont peut-être été un peu secoués, mais n'oublions pas que c'était pour la science, n'est-ce pas ? Pourtant, le film a suscité des doutes. Certains prétendent que c'était peut-être une reconstitution, car apparemment, les plans en gros plan des expériences manquent à l'appel. Qu'importe, la documentation, elle, était bien réelle, du moins selon le script du laboratoire. Mais on y reviendra un peu plus tard. De 1951 à 1958, Brukhonenko a dirigé l'Institut des dispositifs et instruments chirurgicaux expérimentaux, où il a continué ses expériences avec des cadavres humains. Malheureusement pour lui, les résultats n'étaient pas aussi convaincants que sur ses expériences avec les chiens. L'autoiecteur ne s'est pas montré aussi performant avec les cadavres et il a commencé à perdre la faveur des dirigeants soviétiques. Ils auraient peut-être préféré des résultats plus resplendissants pour impressionner les Occidentaux. En 1960, Brukhonenko a quitté la scène médicale, emporté par un cancer du rectum. C'est comme ça, même les pionniers de la science ont une date de péremption. Son héritage cependant persiste. En 1965, 5 ans après sa mort, il a reçu le prix Lénine à titre posthume pour ses contributions à la circulation artificielle du sang et pour avoir jeté les bases de futures avancées médicales. Ses expériences ont ouvert la voie à de nouvelles frontières dans la chirurgie cardiaque en Union soviétique, prouvant une fois pour toutes que, même dans le monde de la science, parfois, il faut avoir du chien pour réussir. Mais alors, c'est quoi ce fameux film ? Ah, les belles années du cinéma soviétique, où l'on mélangeait la science folle avec une pincée de propagande et une touche de « est-ce qu'on peut vraiment faire ça ?» Le chef-d'œuvre de 1940, « Expérience pour la résurrection des organismes », nous emmène dans une aventure sauvage dans le royaume de la résurrection soviétique, narré par rien de moins que J.B.S. Haldane, qui, je suppose, avait une obligation contractuelle d'avoir l'air fasciné. Le film commence avec le cœur d'un chien faisant ses débuts solo, séparé de son hôte poilu et branché à un engin qui le fait se sentir plus vivant que jamais. 4 tubes, un peu d'approvisionnement en sang, et voilà, le cœur jam comme s'il était en tête d'affiche d'un concert canin. Ensuite, on passe à un poumon dans un plateau, prenant une bouffée d'air frais, ou devrais-je dire d'oxygénation. Soufflet pompant, sens oxygénant, c'est comme une émission de cuisine soviétique bizarre où l'ingrédient secret est la curiosité scientifique. Et voici la pièce de résistance, l'autoiecteur. Une machine cœur-poumon qui semble avoir été bricolée à partir de pièces de rechange trouvées lors d'un vide-grenier de savants fous. Des pompes à membrane linéaire, veineuse et artérielle dansent avec un réservoir d'eau. C'est une danse de la vie et de la pseudo-science. L'autoiecteur ne s'arrête pas là. Il passe du battement de cœur canin au chien vedette, fournissant du sang oxygéné à la caboche d'un chien. Oui, vous avez bien entendu, une tête de chien décapité réagissant aux stimuli comme une marionnette velue avec un marionnettiste bizarre contrôlant ses réponses. Maintenant, introduisons le drame. Un chien est vidé de son sang, laissé pendant 10 minutes dans un état qui n'est pas tout à fait mort, pas tout à fait vivant, puis connecté à la machine cœur-poumon. C'est le moment de la musique pleine de suspense alors que le chien fait un retour triomphant. Des cœurs en fibrillation, des rythmes qui redémarrent, et attendez-vous à ça, une reprise de la respiration. La machine est débranchée et le chien est de retour en affaires. Selon le film, ces chiens ont continué à vivre des vies heureuses et saines. La science soviétique maîtrise l'art de la résurrection, semblerait-il. Mais bien sûr, tout le monde n'était pas convaincu par cette extravagance de résurrection canine. Certains sceptiques, principalement des rabat-joie bien sûr, ont remis en question l'authenticité du film. Ils prétendaient que ces chiens ne vivaient pas heureux pour toujours, mais seulement quelques jours, et que les têtes de chiens décapités, étonnamment, ne redevenaient pas des chiens complets, bien évidemment. Sergueï Brukhonenko, le maestro derrière cette symphonie de bêtises scientifiques, n'en est pas resté aux expériences sur les chiens. Non, il avait des projets plus grands. Il a concocté une version humaine de l'autoyector, espérant probablement transformer les citoyens soviétiques en dictateurs littéraires immortels, comme le fantasme de George Bernard Shaw. L'autoyector pouvait ressembler à un cauchemar steampunk, mais il a préparé le terrain pour des merveilles médicales modernes, laissant un certain héritage. Et voilà, chers auditeurs, nous concluons ce podcast fascinant qui nous a emmenés en voyage à travers les méandres de l'histoire scientifique, des décapitations canines à la résurrection soviétique. Qui aurait pensé qu'une conversation puisse nous entraîner de la société d'autopsie mutuelle aux expériences délirantes de Sergueï Brukhonenko ? Nous avons débuté avec des anthropologues français du 19e siècle décidant de faire don de leur cerveau après la mort parce que, soyons honnêtes, quoi de mieux à faire avec un cerveau qu'en faire don à la science ? Ces messieurs, membres de la société d'autopsie mutuelle, ont décidé que l'immortalité de l'âme, c'était surfait, et que leur cadavre n'avait de valeur que pour la recherche scientifique. Puis nous avons plongé dans le monde des expériences de décapitation avec des chercheurs français décapitant des criminels et des chiens, prouvant que la science peut être tout sauf ennuyeuse. Le tout agrémenté de guillotines dans les bureaux de la Sorbonne et de chiens décapités réagissant à des stimuli divers et variés. Parce que qui n'a pas envie d'ériger une guillotine dans son bureau un mardi après-midi, hein ? Et puis bien sûr, la star du jour, Sergueï Brukhonenko, le maestro de l'expérimentation soviétique. Nous avons suivi ses aventures de la création de l'autoyector, une machine cœur-poumon digne des films de science-fiction, à ses tentatives de résurrection canine immortalisées dans « Expérience pour la résurrection des organismes ». Des chiens revenant à la vie après avoir flirté avec la mort, George Bernard Shaw envisageant de perdre la tête pour continuer à écrire des chefs-d'œuvre, jusqu'à la posthume récompense du prix Lénine pour avoir ouvert la voie à l'art moderne de l'opération des valves cardiaques. Alors, chers auditeurs, que retenir de tout cela ? Peut-être que la science a parfois pris des chemins bizarres, mais c'est grâce à ces chercheurs intrépides que nous sommes là aujourd'hui à discuter de décapitation, de résurrection et de machine cœur-poumon. La science peut être étrange, parfois controversée, mais elle a le pouvoir de nous émerveiller et de repousser les limites de notre compréhension. Merci de nous avoir accompagnés dans ce périple scientifique improbable. N'oubliez pas de faire don de votre cerveau à la science, d'éviter les guillotines dans les bureaux, et bien sûr, de rester à l'écoute pour de nouvelles aventures, ni éthiques, ni responsables.